Voilà. Voilà, on faisait des grands signes aux techniciens, comme c'est la première de la journée, il faut allumer les micros. Merci à vous d'être venus en ce samedi matin, à presque 10h. on va faire une petite conférence autour du totalitarisme écologique, avec évidemment l'idée que l'individu est de nos jours de plus en plus soumis à une législation qui valorise un comportement écologiquement responsable. On va parler des perspectives politiques. Vous m'entendez encore mieux maintenant. Vous m'avez entendu avant les deux premières phrases ? Oui ? Formidable. Autour de cette table ronde, on va avoir quatre auteurs. Je vais commencer avec tout au bout Yannick Rumpala. Yannick Rumpala est maître de conférences en sciences politiques. Ah. Expertise économique et gestion publique des problèmes environnementaux. C'est...
Oui, c'est une des contributions que j'avais faites il y a quelques années.
Voilà. J'ai noté aussi forme alternative de production énergétique et reconfiguration politique.
Ça, c'est un article plus récent. Et sinon, il y a un gros ouvrage qui s'appelle Développement durable ou le gouvernement du changement total. Donc, je pense qu'on rebondira sur la partie voilà. Totale.
L'idée, là, pour le coup, est de voir un peu les liens entre écologie et politique, pour le coup. À ses côtés, Philippe Squarzoni, Crash Test. Et puis, c'est surtout la dernière saison brune. Qui va nous parler notamment alors des constats, problématiques et puis solutions dans votre bande dessinée. On a juste à ses côtés Jean-Marc Ligny. Jean-Marc Ligny, auteur de science-fiction, avec notamment une empreinte écologique assez forte.
Ces derniers temps, oui.
Ouais, on va citer AquaTM, on va citer Ecovariant, on va citer Les yeux dans le ciel, voilà, ou bien encore Exode. On va pouvoir aussi discuter de tout ça. Et puis à mes côtés, Thierry Dirolo. Thierry Dirolo, auteur de science-fiction également. Bon, Thierry Dirolo, moi j'aime bien citer les ouvrages que je préfère, comme La profondeur des tombes ou Bang Green ou La lumière des morts. Et puis il vient de signer également donc Bang Green, qui est plus côté fantasy pour le coup, avec sa suite. Et puis un polar qui s'appelle Les solitudes de l'ours blanc aux éditions ActuSF. Voilà. On va peut-être faire un premier tour de table. On va commencer avec nos auteurs de science-fiction, pour voir un peu l'écologie et leur vision de l'écologie dans le futur. Vision plutôt pessimiste qui va trancher un petit peu avec la suite. Jean-Marc, on voulait parler ensemble des yeux dans le ciel, où là, pour le coup, l'écologie tourne quasiment presque à la secte.
Oui, effectivement. En fait, des yeux dans le ciel, donc c'est un roman jeunesse que j'ai... dont j'ai écrit une première version il y a fort longtemps, même avant qu'on parle de réchauffement climatique, et donc que j'ai remis à jour et abondamment complété, puisque le bouquin fait maintenant le double en taille. Et à la base, l'idée de base, c'est qu'on est loin dans le futur, donc le climat s'est stabilisé, la nature a repris ses droits, tous ses droits, et même tellement de droits que l'humanité, du moins les survivants du cataclysme qui nous attend, donc on crée une forme de société pastorale de type quasi médiéval et plutôt chamanique. Donc le chef du village, c'est un chaman qui lui seul sait interpréter et décoder les signes de mère nature. Et donc tout le village et toute cette société est soumise aux dictats et à la volonté de Mère Nature. Donc il est interdit de couper un arbre, il est interdit de tuer un animal, il est interdit d'intervenir de quelque façon que ce soit dans les événements naturels, quels qu'ils soient, quoi. Et si survient un malheur au village, du type la foudre tombe sur une maison, la rivière déborde, le village est inondé et tout, c'est forcément la faute des hommes qui ont enjoint le courroux de Mère Nature. Donc, il faut faire des sacrifices, il faut expier, quoi. L'homme est à cette époque-là, donc dans ce lointain futur, porte sur ses épaules le fardeau d'une expiation envers les abominations qu'ont fait ses ancêtres. Et donc, le chaman et l'interprète entre la nature et les hommes. Et bon, évidemment, il en profite pour exercer un pouvoir tyrannique et sans partage, parce qu'il lui suffit de dire, si vous ne faites pas ce que je dis, la nature va vous frapper. Et forcément, un jour ou l'autre, la nature frappe. Et donc voilà, l'histoire commence au début, un des gamins de la tribu se fait attaquer par une panthère et les habitants du village sont prêts à tous le laisser mourir parce qu'il ne faut surtout pas intervenir, chasser la panthère, etc. Et donc il va être sauvé après par un personnage mystérieux et puis bon, l'histoire commence, que je ne vais pas raconter. Mais le principe de base, c'était ça. Et l'idée m'est venue en fait de... on me dit justement de, à propos de l'écologie, on instaurait de plus en plus de recommandations, on culpabilisait les gens en fait, et c'est toujours le cas, sur l'écologie, il faut recycler vos déchets, arrêter de faire couler l'eau quand vous lavez les dents, prendre des ampoules basse consommation, recycler vos piles, etc. Genre, si le réchauffement climatique a lieu, c'est de votre faute et vous avez intérêt à faire ça, sinon on vous taxe. Et alors que bon, je veux bien, effectivement, c'est important de recycler ses déchets et d'arrêter de gaspiller l'eau. Mais il y a dégradations écologiques d'une toute autre ampleur à l'échelon industriel qui n'ont rien à voir avec le fait de laisser couler l'eau, même si, enfin, je veux dire, tout le monde ne le fait pas. Et là, j'ai senti que les gouvernements tentaient de rendre les citoyens responsables de la situation. Et avec mon esprit tordu d'auteur de SF, je me suis dit, si on poussait ce raisonnement au maximum, ça pourrait donner effectivement une espèce de totalitarisme. Pouf, pouf. Il est 10 heures du matin. Totalitarisme écologique, dans le cadre d'une société chamanique.
C'est compliqué à dire, totalitarisme. Mais il y a plein de notions déjà dans ce que tu vas aborder. Ça va nous permettre de rebondir avec les uns les autres. Thierry, l'écologie n'est pas forcément moteur dans tes scénarios, en tout cas tes mondes, souvent, ne sont pas très verts et riants, entre guillemets, quand tu décris un monde futur. Quelle est un petit peu ta vision des choses et la place de ça? Pourquoi est-ce que, par exemple, tes mondes futurs ne sont pas un peu plus fleuris?
Moi, je pense que tant que l'homme s'occupera de l'écologie, ce sera un massacre. Donc, il faudrait. Donc, de toute manière, je crois qu'on n'arrivera jamais véritablement à trouver les solutions, quoi. De plus en plus de monde à nourrir, de plus en plus de monde à faire vivre. Ça va bientôt être intenable. Enfin, je ne sais pas comment ça peut faire autrement que comme ça, quoi. Alors, quand en plus, l'homme, quoi qu'il fasse, finit toujours par salir ce qu'il entreprend, plus ou moins, je trouve. Je vois pas comment l'écologie, le mouvement écologiste pourrait faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que mes mondes sont toujours à la ramasse, complètement dévastés, souvent. Mais parce que je suis pas certain que pour nous, l'écologie soit la réponse de demain. Je ne suis pas certain que ce soit la priorité non plus. Parce que je crois qu'il y a d'autres facteurs. Il y a l'économie, il y a la démographie. Mais je pense qu'on s'occupera d'abord de ça avant de s'occuper de la terre sur laquelle on vit. Alors que c'est une erreur monumentale de faire comme ça, mais je le vois comme ça.
Est-ce que le fait que d'avoir des mondes qui effectivement sont des catastrophes écologiques, est-ce que c'est un argument narratif pour placer tes personnages ou est-ce que c'est aussi une manière toi de dire oula, attention?
Non, c'est une manière de dire. Non, c'est pas un procédé. C'est. Je n'imagine jamais que ce que je peux entrevoir. Non, c'est vraiment. Non, c'est pas un procédé. Je pense sincèrement que qu'on a plus de chances de finir comme ça qu'autrement, quoi. Mais bon, j'espère quand même que j'ai déjà tort et que j'aurai tort, bien sûr, évidemment. Et pour le moment, moi, je vois absolument rien de positif ni d'encourageant. Voilà. Enfin,
Et ben c'est intéressant tout ça. C'est intéressant dans cette vision-là et en même temps dans l'espoir qu'elle porte quelque part. Tu voulais réagir, Jean-Marc ?
Tu parles de l'espoir qu'elle porte ? Je trouve ça extrêmement pessimiste, mais bon, je te rejoins un peu dans ta vision des choses. Je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, il est trop tard. Mais je pense pas que l'écologie serve à rien, en fait.
Voilà, nous avons des cordes qui sont à disposition.
Et moi, si j'entrevois une solution, ou peut-être le déclenchement de quelque chose dans l'écologie, ça s'orienterait carrément vers la guérilla et le terrorisme.
On est dans le
Greenpeace,
sujet.
Greenpeace puissance 4, quoi. Je veux dire, on se contente pas d'arraisonner le bateau qui va faire des forages en Arctique, on le fait sauter, quoi.
Bon, ben voilà, c'est fait. Hein. C'était, vous avez bien fait.
Au lieu de passer 30 ans en prison, parce qu'ils sont mal barrés, là, les militants de Greenpeace. Donc, mais on pourra peut-être aborder la question. J'ai aussi écrit un bouquin sur le sujet. Là.
Exactement. Philippe Squarzoni, êtes-vous aussi si pessimiste ? Parlez-nous un petit peu de votre bande dessinée, ce qui a présidé à sa, enfin tout le moins l'idée de base. Et vous parlez d'alternatives. Vous esquissez des choses.
Oui, en fait, moi je trouve que c'est un peu difficile de se définir sur la question de pessimiste ou optimiste. On m'a par exemple beaucoup reproché que ma BD soit un peu pessimiste. Mais je trouve que ça donne l'impression que tel jour on était de mauvaise humeur, donc on a fait une conclusion qui était un peu pessimiste. Il ne s'agit pas vraiment de ça, il s'agit de savoir si on peut encore s'en sortir, s'il est trop tard ou pas, et de quelle façon. Par rapport à ce que vous me demandiez sur ma bande dessinée, moi j'étais pas spécialiste des questions d'environnement. Dans un précédent travail, j'ai été amené à me pencher sur le bilan écologique du gouvernement Chirac. Et la plupart des choses qu'ils avaient faites, ou plutôt la plupart des choses qu'ils n'avaient pas faites, concernaient le réchauffement climatique. Donc j'ai décidé de fouiller un peu plus ce qu'était cette question du réchauffement climatique. J'ai découvert la nature de la crise, sa gravité, l'ampleur de ce qu'il faudrait mettre en place pour échapper aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Et l'inquiétude que ça a généré chez moi a formé la matière de cet ouvrage, Saison Brune, sur laquelle j'ai passé 6 ans, et qui est une bande dessinée qui essaye de comprendre et de redire la nature du changement climatique, d'où viennent nos émissions, quelles seront les conséquences prévisibles dans les décennies à venir, et puis, en fin d'ouvrage, quelles sont les alternatives possibles, les alternatives qui sont des impasses et les alternatives qui permettraient d'échapper aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique. Je dis aux conséquences les plus graves du réchauffement parce qu'une partie des conséquences, on les a déjà signées, et dans les décennies qui viennent, on devra s'adapter et en même temps réduire nos émissions. Donc, à mon sens, il existe une porte de sortie qui nous permet de réduire fortement nos émissions et d'échapper aux conséquences les plus graves. Ça ne veut pas dire que parce que cette porte de sortie existe, on va la saisir. Et cette porte se referme chaque jour un peu plus et on ne va pas du tout vers cette direction-là. Très rapidement, cette porte consisterait à réduire massivement nos consommations d'énergie à base d'efficacité énergétique, de sobriété, de contraintes, de responsabilité personnelle et puis de changement de source de nos émissions. C'est le scénario de la Fondation Négawatt, quoi, hein, qui est animé par des physiciens, des ingénieurs en énergie et qui ont fait un scénario visant à faire chuter nos émissions de gaz carbonique avec les moyens que je décrivais, en se basant uniquement sur des technologies qui existent aujourd'hui. Hein, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas si la science pouvait nous apporter demain la solution, c'est avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est un scénario qui consiste à réduire massivement nos consommations d'énergie à service rendu égal. Et avec ce scénario-là, ils alimentent la France en énergie heure par heure sur les 50 prochaines années et ils divisent par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Et d'autres fondations en Europe ont fait des scénarios équivalents en Angleterre, en Allemagne. Donc c'est possible. Cela dit, ça ne va pas du tout dans le sens des politiques économiques actuelles, du productivisme énergétique, etc. Donc ce n'est pas parce que c'est possible qu'on va le faire.
Une autre solution, excuse-moi de t'interrompre, c'est la décroissance. Enfin, je peut-être t'allais en parler, mais...
Ou la décroissance. Moi, je ne me retrouve pas trop dans les théories de la décroissance qui me semblent vaseuses, pas forcément toujours très solides. C'est une galaxie qui n'est pas homogène. Les gens ne disent pas les mêmes choses, etc. Et en plus, c'est un mot qui fait peur. On parle d'un mot au but. Moi, je parle plutôt d'un pétard mouillé. Mais pour revenir sur la question du totalitarisme écologique, moi, ce n'est pas ça qui me fait peur. Moi, je trouve que le danger, c'est le réchauffement climatique et notre inaction. Et ce que deviendra notre inaction dans les décennies à venir, je ne pense pas que ce sera... C'est une super matière, le totalitarisme écologique. On peut faire des livres de fiction, on peut décrire les tendances actuelles en les exagérant, mais ces gens-là ne représentent rien du tout politiquement aujourd'hui. Et à mon sens, quand les conséquences du réchauffement climatique se feront sentir de façon sensible dans nos sociétés, et qu'on réagira politiquement, on ne se tournera pas vers le discours des totalitaristes écologiques. Ils resteront marginaux comme ils le sont aujourd'hui. Par contre, les partis qui sont au pouvoir, l'oligarchie qui est au pouvoir, s'emparera de ces thèmes-là, trop tard, dans l'urgence, mal, de façon non démocratique, et c'est ce qu'ils feront de la contrainte écologique qui est inquiétante. Ce que feront le Parti socialiste, l'UMP ou le Front national, des exigences écologiques dans la précipitation, sans démocratie, avec l'idée d'une croissance verte, ça c'est inquiétant. Comme le dit Hervé Kempf, la croissance verte, ça pourrait très bien devenir les éoliennes, le nucléaire et la matraque. Le nucléaire et l'absence de démocratie, on connaît déjà. On y rajoute un peu d'éoliennes et on va dans le mur.
Bien. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de notions évidemment qui sont abordées les uns avec les autres. On parle quand même à chaque fois, vous avez vu, du lien entre... il y a une situation et il y a les réactions politiques et c'est intéressant qu'on ait Yannick Rumpa là-dessus. Quels sont les liens aujourd'hui pour vous et est-ce que la politique s'occupe véritablement d'écologie ?
Oula, vaste question. Enfin, je dirais que c'est compliqué parce que moi, ce qui me pose problème dans la discussion, c'est la définition des termes. On est parti sur des termes qui sont quand même... pas toujours bien défini et utilisé de manière un peu cavalière. Et typiquement sur cette notion de totalitarisme écologique qui me pose vraiment des gros problèmes conceptuels. Enfin, totalitarisme qui sous-entendrait, enfin, si on reprend la notion, c'est plutôt un acteur central qui mettrait en place des politiques contraignantes et on n'en est pas là. Et je vois mal actuellement le type d'acteur qui porte ce type de position. Alors certes, on peut trouver des extrémistes dans une littérature très très marginale qui défend ce type de position, mais pas dans ces termes-là et pas avec ces connotations-là. Moi, ce qui m'a posé problème dans la discussion qu'on a commencé à engager, c'est le fait de ne pas repérer justement des acteurs. On a parlé de « on a dit l'homme », et ce qui est important, enfin, moi je suis politiste, hein, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment repérer des acteurs et repérer des assemblages institutionnels. Voilà. Enfin, la difficulté de gérer la situation qui est la nôtre dépend aussi d'un système qui s'est installé à partir d'acteurs qui ont fait des choix. Enfin, il y a des choix collectifs qui se sont mis en place. Et la question aujourd'hui, c'est de déconstruire ces choix ou de les repenser. Donc, on a évoqué effectivement quelques scénarios envisageables. Donc, celui de Négawatt. Négawatt, pour préciser un petit peu la stratégie, c'est une ambition en trois étapes. Une première qui serait celle de la sobriété, c'est-à-dire effectivement ne pas consommer. L'énergie la moins polluante, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape serait ce qu'ils appellent l'efficacité énergétique. Donc effectivement, les dispositifs qu'on met en œuvre seraient rendus plus efficaces. Alors là aussi, sur les éoliennes, c'est très compliqué. Enfin, il y a plusieurs manières d'utiliser les énergies alternatives. Il y a effectivement les grosses manières centralisées. Donc le type de parc que vous voyez s'installer, qui est plutôt encore de... une espèce de séquelle des modes de fonctionnement centralisés, donc les parcs éoliennes. Mais il y a tout un tas de technologies qui sont en train de se développer, qui sont très intéressantes, qui sont des manières justement d'individualiser la production énergétique. Donc on connaît tous les éoliennes à axes verticaux. Mais il y a des recherches qui se font... verticaux ? Non, c'est des axes horizontaux. Donc pour l'instant, la majorité des éoliennes sont sur des axes horizontaux. Mais on est en train de réfléchir sur des nouveaux designs avec des éoliennes à axes verticaux qui permettent d'envisager des formes de production énergétique individuelle. Donc là, pour le coup, et c'est l'aspect de mes recherches récentes, ça change la donne. Donc plutôt que de devoir passer par des productions centralisées et massives, on pourrait envisager, si ces recherches sont poursuivies, que cette production devienne davantage décentralisée. Donc on a une petite maison et on peut éventuellement installer ce type d'équipement qui rend envisageable une moindre dépendance par rapport à des productions centralisées. Alors bien sûr, ça supposerait que davantage de recherches soient investies dans ce type d'équipement, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, dans le cas français, effectivement, la majorité des recherches qui ont été faites en matière énergétique ont été investies dans le nucléaire, et avec des quantités de milliards absolument impressionnantes. Donc, c'est en ce sens-là que moi, ce qui m'intéresse en tant que politiste, c'est à la fois les acteurs et le cadre institutionnel dans lequel opèrent ces acteurs. Et c'est ce qui va conditionner effectivement un certain nombre de choix. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir pour effectivement faire évoluer des situations. Et l'ampleur de la tâche est effectivement énorme.
Mais est-ce que le pouvoir politique se préoccupe de ces questions-là. C'est vrai que notre réaction parfois à tous, c'est de se dire qu'on est face à des grands choix. On a l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique, en tout cas.
Alors, là aussi, ça dépend de ce qu'on appelle le pouvoir politique. Moi, là aussi, en tant que politiste, ça fait partie des notions que je préfère éviter. Enfin, voilà, moi, je préfère repérer des acteurs. Donc, si on considère que le pouvoir politique, c'est le gouvernement ou les acteurs gouvernementaux, donc ministère, cabinet, etc., effectivement, dans les récents gouvernements, la préoccupation était relativement marginale. Après, ce ne sont pas les seuls acteurs qui peuvent influer sur l'évolution d'une société. Donc, une partie de mes travaux jusqu'à présent a beaucoup porté sur ce que j'ai appelé, à très gros traits, la transition écologique par le haut. Effectivement, l'essentiel de ce qui s'est fait jusqu'à présent, ça a été une série d'initiatives que des acteurs politiques nationaux, internationaux ont essayé de pousser. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Copenhague a été un flop. Les différents sommets mondiaux du style Rio, Johannesburg, Rio plus 20 sont également des... Pour le dire de manière très brutale, c'est de la parlotte, quoi. Ça discute, c'est du discours, ça n'embraye pas sur grand-chose. Et il y aurait une autre manière d'envisager cette transition écologique, qui est le sujet sur lequel je réfléchis actuellement, qui est ce qu'on peut appeler une transition écologique par le bas. Et moi, je vois toute une série d'acteurs qui se disent, à la limite, ne nous préoccupons pas de ce que font les gouvernements et faisons nous-mêmes les initiatives qui nous paraissent intéressantes. Alors, ce n'est pas la version éco-terroriste, c'est une version un peu plus pacifique, mais qui essaie de développer des initiatives qui peuvent... Alors là aussi, ça supposerait qu'elle s'agrège en quantité assez massive, mais qui essaie d'envisager des formes de réaction un peu plus basistes, populaires, communautaires. Alors, pour prendre un exemple, et je ne vais pas monopoliser la parole, il y a quelques initiatives, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, comme par exemple les incroyables comestibles. Ça commence à faire un petit peu le buzz. Donc c'est ces groupes d'individus qui essayent de récupérer des espaces qui sont un petit peu délaissés et qui se disent bon, cet espace ne sert à rien, je vais le récupérer pour cultiver des fruits, des légumes et pour que la collectivité puisse, le jour où ces légumes ou fruits arrivent à maturité, puisse s'en saisir. Et c'est gratuit. Je n'ai aucune motivation à le faire, je le fais parce que ça me fait plaisir, je considère que c'est important. La collectivité peut en profiter et éventuellement c'est un bien pour tous. Donc voilà, il y a ce type de principe, il y a le principe des vergers collectifs. Donc le même type d'idée, par exemple, plutôt que de faire des plantations ornementales comme on en voit dans les villes, pourquoi ne pas penser à des plantations qui soient plus vivrières ? Donc planter de la rhubarbe, je sais pas, dans les contre-allées, ou planter des arbres fruitiers plutôt que des arbres purement décoratifs. Voilà.
Jean-Marc, une réaction ?
Oui, je voulais un peu rebondir sur ce que vous avez dit à propos de la transition énergétique et effectivement le programme... tout miser sur le nucléaire, maintenant construire des parcs éoliennes gigantesques et tout. En fait, le principe économique actuel est de toute façon que l'énergie soit centralisée pour être distribuée en réseau et vendue. Même EDF encourageant les habitants à mettre des panneaux solaires sur les toits de leur maison, c'est pas pour être autonome d'un point de vue électrique, c'est pour revendre l'électricité à EDF pour qu'ils continuent à les facturer. Moi, je trouve ça, c'est une totale aberration. Et l'acte de résistance écologique qui devrait nous venir à l'esprit à tous, c'est effectivement de rendre notre maison autonome d'un point de vue énergétique, de se libérer des réseaux, en fait.
Sauf que ça suppose un effort et un engagement personnel bien plus important.
Eh bien, qui n'est pas encouragé. Voilà. Effectivement, il y a les moyens techniques. Je veux dire, c'est facile d'installer une éolienne dans son jardin, des panneaux solaires sur son toit, et de rendre notre maison autonome pour peu qu'on l'isole bien. Enfin, les technologies existent. Et maintenant, ce qu'on encourage, effectivement, on va parler de maisons à énergie passive, low energy et tout ça, mais toujours dans le cadre d'une distribution de l'énergie en réseau. C'est l'économie capitaliste, productiviste qui impose ça. Des réseaux comme EDF, l'eau, le gaz, tous les réseaux de distribution d'énergie ne vont jamais encourager les habitants à être autonomes d'un point de vue énergétique. Et même si elle va prôner, elle va dire, voilà, on est le réseau le plus vert, toute notre électricité vient du parc éolien ou vient de panneaux solaires, etc. C'est quand même de l'électricité distribuée en réseau pour que les gens restent dépendants d'un réseau.
Philippe Toussaint-Denis, voilà, vous voyez prendre le micro.
Oui, pour réagir sur ce que tu disais, effectivement, quand l'État a proposé de racheter à un prix supérieur au marché toute l'énergie photovoltaïque produite en France, C'est devenu une aubaine fiscale pour des entreprises qui ont monté des boîtes pour proposer des panneaux solaires et pour des gens qui se sont dit qu'ils allaient comme ça se faire un bénéfice avec leurs panneaux solaires. Pour certains, ça n'a pas du tout marché parce qu'ils ont été arnaqués par des boîtes qui leur ont vendu des panneaux solaires qui ne deviendront jamais rentables. Pour d'autres, ça a marché, mais le souci écologique n'était pas leur préoccupation première. Et au bout d'un moment, EDF s'est rendu compte que certains d'entre eux éclairaient leurs panneaux solaires la nuit avec des halogènes pour continuer à produire toujours plus d'électricité et à en vendre toujours plus à EDF. Il a fallu passer une loi interdisant à EDF de racheter de l'électricité solaire produite la nuit en France. Donc, effectivement, si vous créez des aubaines fiscales ou des aubaines financières de ce type-là, il peut se créer des petites bulles qui, par ailleurs, écologiquement, n'ont aucun intérêt puisque les panneaux solaires n'étant pas fabriqués, il n'y avait pas de filière de fabrication de panneaux solaires en France. Ils venaient de Chine et donc ils ne rembourseraient jamais leur empreinte écologique sur la durée de vie assez courte d'un panneau solaire. Donc, il y a des fausses bonnes solutions qui non seulement peuvent plonger des gens dans la misère, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à rembourser des panneaux solaires et à s'endetter pour ça, sans jamais générer le profit qu'ils cherchaient, mais en plus écologiquement c'est complètement irresponsable. Donc ça veut dire, pour revenir à ce que vous disiez au début, la question politique elle est fondamentale là-dedans. Il s'agit de changer nos modes de fonctionnement, de s'écarter au maximum de ces productions énergétiques centralisées et d'aller vers des productions énergétiques plus locales, avec des bouquets énergétiques permettant à des villes, des communes, des communautés de communes, des pavillons, de s'exonérer du réseau central énergétique. Mais ce n'est pas du tout l'intérêt dominant, pour revenir sur ce que tu disais, les acteurs de l'énergie, c'est aussi les grandes entreprises productrices d'énergie en France qui n'ont aucun intérêt à ça.
Est-ce que l'écologie par le bas, dont vous nous parliez, peut exister sans initiative ou tout du moins sans encouragement de l'écologie par le haut?
De fait, elle existe et certains le tentent. Peut-être avez-vous entendu parler aussi de ce qu'on appelle le mouvement des villes en transition, qui émane d'une initiative d'une petite ville du Royaume-Uni qui s'appelle Totnes, où effectivement un monsieur qui s'appelle Rob Hopkins a décidé de convaincre les habitants de cette petite ville d'engager une transition énergétique au niveau local. Et donc par le biais de petits groupes de réflexion, ils ont essayé effectivement d'agréger une espèce de dynamique pour inciter les gens à réfléchir sur leur propre comportement et donc notamment à partir de la notion de ce qu'ils appellent la résilience. Donc comment faire en sorte que le jour où se produirait le pic pétrolier, la petite ville puisse arriver à continuer à survivre malgré cette pénurie, puisque voilà, l'absence de pétrole, c'est... pensez-y, c'est la quasi-totalité de votre vie quotidienne qui change. Ce n'est pas seulement sur le carburant, mais c'est aussi sur la production de plastique, d'engrais, de toute une série de produits, de médicaments même, qui font votre vie courante. Donc ces gens-là se sont dit, sous l'impulsion de Rob Hopkins, comment ferions-nous si un jour, effectivement, le pétrole disparaît? Et donc on le prépare à l'avance et on prépare ce qu'ils ont appelé une transition. Donc comment est-ce qu'on cultive localement pour éviter d'avoir besoin de faire des noyaux de camions qui approvisionnent la ville? Comment est-ce qu'on produit ses vêtements localement, ses meubles localement, enfin tout ce dont on a besoin localement pour éviter d'être dans une situation de dépendance par rapport à l'extérieur. Alors ça m'amène à rebondir sur un point qui est également très important, que je considère comme très important sur la gestion des enjeux environnementaux. Pour prendre en charge la question écologique à un niveau individuel, c'est moi ce que j'ai appelé agir en pensant systématiquement aux conséquences. L'hypothèse que je fais et la phase dans laquelle on est rentré, c'est que collectivement, nous sommes amenés à penser systématiquement à ce que nous faisons. D'où l'importance d'une notion qui est intéressante à mon avis en sociologie, qui est celle de réflexivité. Et la phase dans laquelle on est, c'est une phase de croissance de réflexivité, un niveau individuel et un niveau collectif. C'est l'exemple que j'ai déjà pris un petit peu hier. C'est le comportement que vous avez quand vous êtes au supermarché. Vous regardez un emballage, vous regardez puisque maintenant vous avez toute une série d'indicateurs qui vous proposent de repérer les dégâts écologiques potentiellement du produit que vous achetez. Et donc effectivement, c'est une réflexivité qui est en phase croissante et vers laquelle on est forcément obligé à s'amener. Donc, alors avec toute une série d'ambiguïtés, puisqu'on est... peut-être que vous vous en rendez un petit peu compte, dans une rationalité qui est très particulière, qui est une espèce de rationalité quasi calculatoire. C'est qu'on est obligé de quasiment calculer les moindres effets de nos comportements pour les anticiper. Donc c'est en ce sens-là que c'est très ambigu. Donc je vais conclure là-dessus pour ne pas être à nouveau trop long. Mais c'est là aussi où se posent les enjeux politiques. C'est qui définit quels sont les bons comportements? Quelles sont les entités, les acteurs qui vont définir pour orienter vers ce qui est à faire? Et pour effectivement, pour l'instant, ce type de discussion échappe largement à des enjeux démocratiques et de la base, pour le coup. Ça reste dans des sphères qui, effectivement, font des choix dont on est assez peu conscient et dont on est tributaire. Donc, moi, j'avais pris aussi l'exemple du tri des déchets hier, où on se retrouve effectivement à devoir trier ces déchets dans sa cuisine, alors qu'on aurait pu tout à fait imaginer d'autres choix, qui seraient, par exemple, le retour à la consigne, qui existait, moi, quand j'étais jeune, ou qui pourraient être d'autres types d'offres dans les supermarchés. Donc, pourquoi est-ce qu'on est obligé de choisir des produits qui nous obligent, en quelque sorte, à produire des déchets en fin de cycle, et après nous obliger à les trier et sortir notre belle poubelle jaune ou bleue une fois par semaine? D'autres systèmes pourraient être envisageables, mais ça supposerait effectivement de revenir à un autre niveau d'action.
Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, qui définit quels sont les bons comportements, mais qui définit quels sont les comportements écologiquement excessifs, pour revenir sur le thème du débat, non pas le totalitarisme écologique, mais peut-être le radicalisme écologique, il est beaucoup dans l'œil de celui qui regarde. Aujourd'hui, les rapports du GIEC sont beaucoup dénoncés par certains commentateurs politiques comme étant déjà trop radicaux écologiquement, alors que le GIEC nous dit ce que peut nous dire la science sur le réchauffement climatique. Donc là aussi, c'est beaucoup une question d'acceptation collective des contraintes climatiques et de savoir quel comportement va être jugé comme écologiquement responsable, quel comportement va être jugé comme écologiquement excessif. Et le problème, c'est qu'une partie du message n'est pas aimable. Les comportements, les changements de société, à un niveau plus global, qu'il faudrait mettre en œuvre, seront assez massivement considérés comme étant écologiquement radicaux. C'est aussi ce qui explique notre inaction.
Mais Thierry, tout à l'heure, nous disait, et peut-être que tu as une réaction sur tout ça, il nous disait les priorités, tout du moins au niveau du gouvernement, sont ailleurs. Peut-être une réaction déjà sur tout le débat,
oui,
Thierry.
Parce que l'écologie par le bord, d'accord, mais avec quel système politique?
C'est toute la question. Enfin, c'est pour ça que l'enjeu, c'est pas simplement la question écologique, c'est aussi un changement globalement du système dans lequel on est. Enfin,
Et est-ce que l'écologie peut s'épanouir au sein d'un système qui est productiviste et capitaliste par nature?
À nouveau, la question, c'est quel type d'écologie peut s'épanouir? Enfin, l'écologie, en fait, c'est une vaste étiquette. Il y a différents courants.
Justement, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore le choix de choisir une écologie?
Oui, tout à fait. Le choix qui est fait aujourd'hui implicitement, c'est un choix que je qualifierais d'économico-techniciste. Donc, des solutions à la fois économiques, qui sont les fameuses écotaxes qui font débat actuellement, qui sont une manière de faire évoluer les comportements. Enfin, l'écotaxe... moi, ce qui m'embête actuellement, c'est qu'elle est fréquemment mise sur le dos des écologistes. En fait, historiquement, l'écotaxe est une solution qui a été développée par des économistes. Et ça remonte très loin, ça remonte aux années 60. Donc, en fait, ce sont de vieilles réflexions d'économistes qui aboutissent aujourd'hui à quelque chose qui s'appelle l'écotaxe et dont le but est d'amener à faire évoluer les comportements, mais par le biais de ce que les économistes appellent le signal prix. Donc, c'est l'augmentation d'un prix relatif, donc le renchérissement d'un produit qui est censé vous amener à modifier de vous-même vos comportements, puisque le consommateur est censé réagir par rapport au prix plutôt que par rapport à la qualité écologique d'un produit. Donc ça, c'est un des premiers axes effectivement sur lequel agissent plus ou moins les gouvernements. Et le deuxième axe, qui est un axe que je qualifierais de techniciste, dans le sens où c'est le vieil argument classique, quoi. C'est l'amélioration technologique qui est censée nous sauver. Donc c'est la version effectivement efficacité énergétique. C'est rendons nos équipements moins consommateurs d'énergie ou trouvons des innovations technologiques qui nous permettent d'éviter d'avoir à faire l'effort. Donc on est plutôt dans cette logique-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes modalités. Et moi, ce qui m'embête, c'est les grandes étiquettes. C'est écologie, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne fait pas sens.
Jean-Marc.
Moi, j'ai l'impression, pour recentrer le débat sur le terme, entre guillemets, totalitarisme, qu'en fait, plus que l'écologie va être un label gouvernemental, en fait. Ça commence à le devenir. Et que les comportements écologiques vont être quantifiés, mesurés, contrôlés et tarifés. Que plus on va vers une... le dérèglement climatique et le dérèglement sociétal que ça va impliquer, l'optique gouvernementale globale va être de responsabiliser les citoyens, parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas toucher aux entreprises. C'est elles qui sont les moteurs de l'économie. Donc, Donc l'économie doit continuer à tourner coûte que coûte. Hein. C'est business as usual tant qu'on le peut. Hein. Et donc les principes pollueurs payeurs, etc., qui nous ont été tellement rebattus par les gouvernements, va s'appliquer aux citoyens. L'écotaxe va s'appliquer aux citoyens. On va taxer les gens qui consomment trop d'eau. Déjà, il y a eu des propositions dans les impôts de taxer ceux qui consommaient trop d'énergie, enfin, ou les impôts locaux, ou les taxes foncières, je ne sais plus. Enfin, c'était une taxe fiscale, en tout cas, que ceux qui consommaient trop d'énergie allaient être taxés. Donc, plutôt que de favoriser des comportements différents, des modes de consommation différents, d'essayer de modifier autant que faire se peut la société, le fonctionnement de la société vers un mode de fonctionnement justement plus éco-responsable, c'est pas la société qu'on va rendre écologiquement viable. On va créer une économie, quoi, économie de l'écologie, en fait. Là, ça va être le greenwashing et puis la taxation de l'écologie, ça va être une source de revenus, mais carrément en or pour les gouvernements et les entreprises dans les années qui viennent. Ça va être pain béni, quoi. Et toutes les entreprises déjà commencent à modifier leur discours en disant qu'elles produisent toutes plus vertes les unes que les autres, alors qu'on sait très bien que c'est du pipeau, quoi. Et qui est-ce qui va raquer? Ça va être les citoyens, parce qu'ils auront produit un kilo de déchets en plus, parce qu'ils auront dépassé le quota de flotte alloué par jour, parce qu'ils n'auront pas remplacé par une ampoule à LED la lumière de leur chiotte. Voilà, ça va être ça, le totalitarisme écologique. En fait, il va être fiscal et ça va être une manière supplémentaire de ponctionner les gens, quoi.
Donc, si je résume de vos discussions, on a une écologie par le haut, gouvernementale, dont vous parliez, qui serait essentiellement économique et finalement pas très efficace. Une écologie par le bas, où on se pose la question de comment est-ce qu'elle peut s'imposer s'il n'y a pas de volonté par le haut. Globalement, est-ce qu'il y a des vraies solutions? Est-ce qu'il y a un motif d'espoir là autour de cette table ronde? Ou est-ce que fatalement, là, on va basculer dans la notion, et c'était le troisième point, de on va pas avoir le choix, et donc du coup, il va falloir changer brutalement nos comportements. Qui veut répondre? C'est pour le coup, là, c'est une question ouverte.
Un petit peu de SF, peut-être, puisqu'on est quand même censé parler de science-fiction. Dans mes derniers travaux les plus récents où je m'intéresse à SF, moi, j'ai repéré ce que j'appelais six figures des espérances écologiques. Voilà, il y a un premier croisement qui a été présenté tout à l'heure par notre camarade, qui lui en fait a fait la synthèse de deux figures que j'ai repérées. La première serait, moi j'aime pas totalitarisme écologique, hein, je l'ai dit. Moi j'ai plutôt parlé de conservationnisme autoritaire, dans le sens où effectivement il n'y a pas d'acteur central, enfin vous l'avez compris. Et donc la version qui a été présentée en fait est un mélange à la fois du conservationnisme autoritaire et de la nature spiritualisée. Donc la version précédente c'était en fait un mélange de, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu Karen Travis. La cité de perles, et un mélange avec Avatar, où effectivement on est dans une version de la nature spiritualisée. Donc ça c'est deux figures que j'ai repérées. J'en ai repéré quatre autres, qui sont ce que j'ai appelé la frugalité autogérée, qui est un peu ce que je décrivais tout à l'heure sur la transition écologique par le bas. Pour ceux qui ont lu Ursula Le Guin, c'est par exemple ce qui est proposé dans Les Dépossédés, donc une version, pour ceux qui ont lu, hein, donc ce qui se passe sur la lune d'Anarès, où effectivement une communauté se retrouve dans l'obligation de gérer des situations de rareté, mais le fait sur un mode anarchisant, communautaire, on va dire un petit peu libertaire. Une autre figure qu'on pourrait repérer, c'est moi ce que j'ai appelé l'abstentionnisme technologique, qu'on trouve par exemple chez Michel Jury, dans Les Écumeurs du silence, où effectivement une bonne partie de l'humanité est mise en sommeil dans des espèces d'abris souterrains pour laisser à la Terre le temps de se régénérer. Et donc, effectivement, ne subsiste que sur la surface terrestre une petite communauté qui est donc placée sous l'autorité des écumeurs du silence, qui veille à ce qu'aucune nouvelle technologie ne soit développée pour laisser suffisamment de temps à la Terre pour se régénérer. Troisième figure que j'ai repérée, un auteur que j'aime beaucoup, qui est celle qu'on trouve chez Ian Banks dans La Culture, où pour le coup, là, c'est la version carrément techniciste, avec ce que j'ai appelé l'abondance automatisée, ou avec effectivement une civilisation qui a atteint un degré de technologie tel qu'effectivement on peut jouer sur les nanotechnologies et produire quasiment tout ce qu'on veut sans se poser la question de la production énergétique. Je ne sais plus combien j'en ai donné, 4, 5.
Il nous en manque une.
Il en manque une, c'est dur le samedi matin. Donc frugalité autogérée. Ah oui, la première, la plus ancienne, on va dire historiquement presque, c'est celle qu'on trouve chez un monsieur qui s'appelle Ernest Kallenbach, qui est un auteur américain, qui décrit ce que j'ai appelé la sécession arcadienne. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Ecotopia, qui décrit en quelque sorte l'histoire d'une sécession. C'est quelques États américains de la côte ouest des États-Unis qui décident de faire sécession pour sortir du modèle consumériste et productiviste américain et qui adoptent en quelque sorte les principes qui étaient, je dirais, beaucoup de guillemets, à la mode à l'époque dans certaines communautés hippies. Donc effectivement, sur les principes d'écologie, sur la sortie des modèles patriarcaux, sur le refus des modes de transport polluants, le refus des modes de production énergétique centralisés, les refus des modes de production alimentaire centralisés. Donc une version de la sécession qu'on pourrait qualifier d'arcadienne et de sortie pour le coup du modèle dominant. Donc voilà six figures effectivement. Voilà,
la science-fiction, c'est quand même bien parler du thème. Il nous reste une dizaine de minutes, non pas avant la fin du monde, mais avant la fin de la conférence. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est le moment. Monsieur, hop, le micro arrive. En courant en plus le micro. La classe.
Oui, bonjour. Alors, donc après tout ce qu'on vient d'entendre, j'avais une petite question du coup par rapport au fait que voilà, il arrivera bien un moment où on n'aura plus le choix. À votre avis, est-ce qu'on va plutôt tendre, donc à partir du moment où on aura cette fameuse fracture entre guillemets, on arrivera plus au moment où soit on va faire plus comme du Bernard Werber, où il y aura une personne du coup qui va se dire voilà, donc c'est la crise, mais bon, moi je sais comment on va gérer comme ça, et tout le monde se rallie, ou si on va plus tendre vraiment sur du terrorisme écologique, un peu à la Greenpeace puissance 4 justement, où là c'est voilà, on va imposer par la force et pas par la politique. Le sauvetage du monde, entre guillemets, quoi.
Hey, citer Bernard Werber pour des solutions politiques, il y a un petit tour de force. Qui veut répondre à la question, Jean-Marc?
Je veux bien. Moi, je suis pas du tout prospectiviste, hein, mais je pense que plus la crise climatique et environnementale va s'accentuer, plus les clivages vont se durcir, plus les écarts vont s'accentuer, plus les politiques vont être dures. Plus les catastrophes vont coûter cher, etc., à l'économie. Et donc, il y aura forcément, dans le courant du siècle, tôt ou tard, un changement sociétal drastique. Ça ne va pas s'accomplir en douceur, à mon avis, ni dans la progression. Je pense que, bon, il y a actuellement beaucoup de gens, d'organismes, de philosophes, d'écologues, etc., qui proposent des solutions alternatives. On en a souligner quelques-unes dans ce débat, qui sont paisibles et un peu utopiques, qui sont économiquement et sociétalement absolument viables, mais aucun pouvoir politique actuel ne permettra leur mise en place. Donc, il y aura un combat, une lutte pour l'écologie et pour les ressources qui sera de plus en plus violente. Moi, je présage dans les années à venir du terrorisme écologique, effectivement, pour que, simplement, de la part de certains peuples ou régions menacées d'extinction ou d'anéantissement suite au réchauffement et aux catastrophes climatiques qu'ils génèrent, juste pour préserver leur existence ou pour préserver leurs ultimes ressources. Et plus ces ressources vont s'accentuer, plus la lutte va être âpre. Et donc, il viendra un moment où le modèle économique actuel, centralisé, mondialisé, financier, etc., ne sera plus viable du tout. Mais ceux qui en détiennent les rênes, ils ne vont pas les lâcher comme ça, hein. Donc, ils vont se battre, ils ont le pouvoir, ils ont les forces armées avec eux. Ça va être, à mon avis, très douloureux, ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
Peut-être les micros s'agit. Philippe Squarzoni, puis après Yannick Kumpa.
Dans votre question, il y avait l'idée d'une fracture à un moment donné, et c'est ça qui pose question. C'est la nature même de la crise climatique. propose pas à échelle pas trop lointaine l'idée d'une fracture. Il y a un lent dérèglement de la façon dont fonctionne la machine climatique, mais l'idée qu'il se produise à un moment une fracture qui nous fasse réagir, d'une part, elle n'est pas forcément probable, et d'autre part, elle n'est pas forcément souhaitable. Pas forcément probable parce qu'on va assister à une aggravation des problèmes déjà existants. La sécheresse à certains endroits, les inondations ailleurs, probablement peut-être les tempêtes plus fréquentes ou plus violentes, mais à une aggravation des problèmes qui existent déjà. Mais il ne va pas y avoir une fracture qui, à un moment donné, en tout cas dans un horizon proche, nous fasse réagir. Il y aura peut-être un arrêt du Gulf Stream, mais ce ne sera sûrement pas au XXIe siècle. Il y aura peut-être une fonte complète du Groenland ou des calottes polaires, mais ce sera aussi dans un horizon assez lointain. Mais on va surtout assister à une aggravation des conditions actuelles et donc à une dégénérescence de nos systèmes politiques, économiques. Si à un moment donné, en France, toutes les stations de sport d'hiver se retrouvent 100 mètres au-dessus, en dessous du niveau d'enneigement actuel et plongent dans des impasses économiques toutes les populations qui vivent en montagne, en même temps que l'acidité augmentée des océans marginalise encore plus les pêcheurs, en même temps que des réfugiés climatiques venus des pays de l'Afrique subsaharienne montent de plus en plus en Europe, on va assister à une dégénérescence, à un abattardissement lent de nos conditions sociales, économiques, politiques et culturelles. Mais la fracture en tant que telle qui nous ferait réagir, moi, je ne la vois pas. Et en plus, elle n'est pas non plus souhaitable parce qu'il y a un effet retard sur le réchauffement climatique. Les émissions d'aujourd'hui ne donneront leur plein effet que dans 20 à 30 ans. Donc à partir du moment où on aurait par exemple une fracture climatique qui nous ferait réagir, on aurait encore 30 ans de perturbations climatiques à encaisser à cause de nos émissions des décennies précédentes. Donc cet effet retard ne nous permet pas de souhaiter une fracture qui nous fasse réagir. Il faut réagir maintenant, il faut réagir avant, et donc la prospective politique de se dire qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va casser, elle n'est même pas souhaitable. Il vaut mieux réagir aujourd'hui et réfléchir aujourd'hui à comment réagir avant de voir les signes du réchauffement climatique nous atteindre vraiment, parce que le réchauffement climatique, il atteint déjà le reste du monde. L'ONU estime que 300 000 personnes par an meurent aujourd'hui du réchauffement climatique. Alors ces gens-là ont la mauvaise idée de ne pas mourir tous le même jour au même endroit. Dans ce cas-là, on réagirait. Mais ils meurent de l'aggravation des conditions préexistantes. Sécheresse, malnutrition, déplacement de maladies, inondations, etc.
Ouais, si en plus on peut plus skier et se baigner, c'est n'importe quoi. Yannick,
on parle là. Deux mots, oui, sur le terrorisme écologique. Le problème, c'est que face à ce type de solution, entre guillemets, de proposition, la réaction du système et du pouvoir dominant, c'est plutôt de se braquer. Et vous avez sans doute remarqué qu'on est dans une tendance largement sécuritaire. Et ce qui pourrait être classé dans du terrorisme écologique a plutôt tendance à renforcer cette logique sécuritaire. Et c'est déjà en train de se produire aux États-Unis. Peut-être savez-vous que le FBI a de plus en plus tendance à classer certains mouvements écologistes radicaux parmi les terroristes. Donc des mouvements comme Earth First, certes, qui sont parfois certes très très radicaux. Mais la tendance du FBI, c'est de faire de moins en moins de distinction entre les mouvements écologistes radicaux et ce qu'ils mettent couramment sous l'étiquette de terroristes. Donc c'est une voie qui a aussi non seulement ces ambiguïtés, mais qui est potentiellement source de problèmes supplémentaires, pour dire les choses de manière un peu euphémisée.
J'ai jamais prétendu que c'était une solution.
Oui, non, non, mais enfin, vous avez des mouvements enfin, aux États-Unis comme Earth First qui considèrent que la voie de réaction, c'est une voie quasiment terroriste. Et vous, enfin, pour ceux qui s'intéresseront à la question, vous trouverez sur Internet des manuels du parfait petit éco-terroriste. Donc comment bloquer un chantier, comment bloquer une installation industrielle. Et certains mouvements défendent ce type de position. Et ce sont des mouvements très, très marginaux.
Est-ce qu'il y a une autre question? Profitez-en. Oui. Qui a le micro? Là. Oui.
On vous entend. Allô? Oui. C'est plutôt une question pour M. Kompala. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que le politiste ou est-ce que les politologues mettent une différence entre le totalitarisme qui, si je m'abuse, est défini comme un système qui gère tous les aspects de la vie et une législation qui est raisonnée de manière globale sur tous les aspects de la vie, mais voilà, est-ce qu'il y a une différence entre une législation globalement raisonnée et le totalitarisme?
On a 120 secondes.
120 secondes ? Alors, En fait, en sciences politiques, totalitarisme est une notion relativement bien définie et balisée. Totalitarisme renvoie plutôt à ce qu'on appelle chez nous un régime. Donc c'est un régime politique avec des caractéristiques très particulières, dont les modèles sont plutôt le modèle communiste dans les versions staliniennes et le modèle nazi. Donc dont le travail de référence qui a défini ce que c'est qu'un système totalitaire, c'est Hannah Arendt, effectivement, qui définit un système centralisé avec un gouvernement très fort des comportements, la figure du leader et toute une hiérarchie qui s'impose, enfin voilà, toute une série de caractéristiques. Le type de tendance dans laquelle on est, moi, c'est ce que j'ai plutôt appelé, c'est mes travaux, hein, c'est ce que j'ai appelé la gouvernementalisation des conduites, donc en m'inspirant notamment des approches de Michel Foucault. Ce qui est en train de se construire, effectivement, c'est une forme d'orientation des conduites où il n'y a pas d'acteur central. Et ça vient en fait de multiples pôles qui ne sont pas forcément des acteurs étatiques. Ce sont à la fois des acteurs étatiques, privés, mais aussi parfois associatifs, qui se retrouvent sur des positions qui sont parfois très communes. Donc on est plutôt dans une logique de... Moi, ce que j'appelle gouvernement des conduites ou gouvernementalisation des conduites, où on essaye en quelque sorte de modeler les comportements, mais sans qu'il y ait une forme d'instance centrale qui produirait ces comportements. Et parfois, ce sont des motivations diverses, partant de valeurs et de points de vue d'intérêts divergents, qui peuvent aboutir effectivement à quelque chose qui paraît, vu de l'extérieur, relativement moralisant, culpabilisant et responsabilisant. Mais l'enjeu sera celui-là, c'est comment aujourd'hui on fait pour modifier des comportements en redistribuant ses responsabilités de manière relativement démocratique. Et on est engagé dans un vaste jeu de redistribution des responsabilités. Et c'est ce qui nous attend pour les années qui viennent.
Voilà, on va remercier nos intervenants. Lisez les livres de Thierry Dirolo, lisez les livres de Jean-Marc Ligny, la bande dessinée Saison Brune, et puis suivez ce que fait Yannick Rumpala. Merci à nos intervenants, merci à vous.